l'ours et la carotte. Une émission d'environnement proposée par Nicolas Saint-Martin et Claire Queyrouga.
Alors Jean-Christophe Decaux, bonjour.
Bonjour.
Donc toi tu es architecte paysagiste. On est dans la forêt pour parler entre autres de ton métier mais aussi de ton approche de la sylvothérapie. On est où ?
Alors on est au-dessus d'Andaille, sur les premiers contreforts des Pyrénées. Et on est au pied d'un beau chêne, chêne rouge ou chêne d'Amérique. Et vraiment qu'il y a une belle puissance, un bel endroit avec aussi d'autres choses autour. Et c'est intéressant, d'autres chênes, des petits pins qui viennent de s'installer, des bruyères, quelques graminées. Et ça fait un lieu assez calme et apaisant, ce qui est le principe de la sylvothérapie. Aller retrouver un peu nos origines et nos rapports avec le végétal et avec l'arbre surtout.
Alors toi, ça fait 15 ans que tu exerces donc en tant qu'architecte paysagiste. Alors architecte paysagiste, on entend là justement que tu as tendance à modifier la nature comme tu l'entends ou en tout cas comme tes clients voudraient le faire, non ?
Alors, on va faire attention au terme architecte paysagiste, parce que normalement, on n'a plus le droit de l'utiliser. Donc aujourd'hui, on parle plus de concepteur de jardin ou paysagiste concepteur. Mais je trouve que dans cette démarche-là ou dans cette dénomination, on perd un peu du rapport à l'espace qu'on peut avoir dans les jardins. Et je vois que tu relèves le fait de nature maîtrisée. Mais souvent, quand j'entre dans un jardin, il y a des éléments vivants qui sont présents, qui sont dans le jardin, mais aussi à l'extérieur du jardin. Souvent des grands arbres qu'on voit du jardin, ou un paysage, ou des vis-à-vis. Il y a tout un environnement. Et mon travail est plus d'inscrire après un jardin dans un paysage, c'est-à-dire comment faire pour que il y ait une certaine unité, une harmonie avec les végétaux existants et voir comment on peut faire entrer, offrir aux personnes, à mes clients, un nouvel espace de vie qui leur permettrait de profiter pleinement du lieu. Et puis, de ce coup, le fait de se retrouver en rapport avec le végétal, on ressent de l'apaisement. Et beaucoup de mes clients demandent à retrouver cet apaisement dans ces lieux. Donc, souvent, en fonction de leurs besoins, j'essaye de multiplier un peu les lieux de vie. Alors, ça peut être un espace où on mange, ça peut être un espace où on se repose, ça peut être un espace de une genre de balade à l'intérieur du jardin. Parfois un peu, ce que j'aime bien aussi maintenant, c'est de faire des lieux aussi un peu nourriciers, venir chercher quelques herbes pour faire une tisane ou quelques petits fruits en fonction des saisons. Beaucoup de fleurs. En général, c'est vrai que j'aime bien mettre beaucoup de fleurs dans mes jardins, parce que pour moi, c'est un rapport avec le soleil, c'est la vie, c'est coloré, et puis ça nous interpelle par la beauté que peut nous offrir la nature.
tu me disais dans la préparation de notre rencontre que depuis 15 ans que tu exerces en tant que paysagiste, là, je vais dire, tu as trouvé que tes clients étaient de plus en plus déconnectés de la nature.
Certains de mes clients, c'est vrai que j'ai un rapport assez particulier avec la nature et avec les jardins. Je suis vraiment très à l'écoute des lieux et je me demande parfois qui inspire l'autre. Est-ce que c'est mon esprit qui me guide dans les dessins que je fais dans les jardins, ou est-ce que ce sont entre guillemets les esprits du lieu qui me guident vers quelle plante je peux planter, comment organiser l'espace, parce que c'est souvent quelque chose qui vient pas tout de suite. C'est souvent quelque chose qui peut venir un peu avec le temps. Faut qu'il y ait des échanges nombreux. Je sens de temps en temps que j'ai besoin d'y retourner et qu'il y a vraiment un moment donné où il y a quelque chose qui se déclenche. Il y a des intuitions, mais parfois sur certains jardins, il faut que j'apprivoise le lieu pour pouvoir franchir, rentrer dans la partie dessin. Et quant à mon rapport avec mes clients, c'est vrai que c'est... on est dans une société quand même qui demande à ce que les choses aillent de plus en plus vite. Et puis aussi, parfois... il y a une incompréhension par rapport à pourquoi ce végétal se plaît pas, pourquoi j'ai des entre guillemets mauvaises herbes dans mon jardin, pourquoi est-ce que je peux pas avoir un gazon qui ressemble à un green de golf. Mais c'est vrai que c'était pendant longtemps c'était une certaine frustration d'essayer de chercher comment leur expliquer pourquoi une plante avait du mal à s'installer, pourquoi un gazon mettait du temps à se stabiliser. Et puis, en recherchant un peu en faisant des recherches sur la permaculture et puis aussi sur la vie des sols, ben, je me suis rendu compte que c'est vrai que quand on rentrait dans les jardins, on déséquilibrait énormément le milieu. Et avant qu'un milieu se stabilise, il faut des années et des années. Donc mes clients, souvent, je passais après plus de temps auprès de mes clients à les rassurer sur c'est normal que les feuilles tombent des arbres, on est en automne, et en automne, les feuilles tombent des arbres. Votre gazon, ça va être compliqué de le maintenir comme un golf, parce qu'on va éviter de mettre des produits chimiques, on va limiter les apports en eau du jardin, donc ça va être compliqué d'avoir un gazon qui soit comme vous le souhaitez, avec... quelques maîtrisés, mais bon, la nature doit reprendre ses droits pour qu'il y ait un certain équilibre. Et c'est pas évident pour nos esprits cartésiens, dans le mental, où on a l'impression que l'homme doit tout maîtriser, de se rendre compte que et de se resituer par rapport à l'ensemble. C'est on était. Les arbres étaient là bien, bien avant nous. Et les sols aussi, les sols, c'est des années et des années, enfin des milliers et des milliers d'années de temps de construction. Et c'est bien de se resituer un peu dans l'évolution. Et de dire, l'arbre qui est au-dessus de nous, ce chêne, il est là depuis, enfin, depuis l'évolution. Les feuillus sont venus sur Terre il y a 70 ou 80 millions d'années. Nous, l'espèce humaine, c'est 20 millions d'années. Homo sapiens, c'est 200 000 ans. Voilà, il faut aussi qu'on se situe par rapport à notre place sur cette Terre.
Alors, en tant que paysagiste, donc tu parlais des jardins que tu conçois avec tes clients, donc avec cette notion de effectivement de laisser un peu faire aussi la nature, parce qu'on peut pas la dompter comme on veut. Et du coup, en fait, toi, ce qui t'intéresse notamment dans les jardins, c'est quand même l'aspect aussi bien-être. Et c'est peut-être comme ça que tu es venu à la sylvothérapie. Et la sylvothérapie, ben, ça veut dire quoi ? Ça veut dire se soigner grâce à la forêt, grâce aux arbres, c'est bien ça ?
Oui, pour moi, la sylvothérapie, c'est retrouver un lien avec le végétal. Et quelle chance, enfin, quelle opportunité on peut avoir de recréer ce lien avec... les êtres ultimes de la nature, de la forêt, qui est l'arbre. Parce que voilà, tout sur Terre, si on abandonne un lopin de terre, son but ultime, ce sera d'être une forêt avec une forêt de hêtres au bout de ou de chênes au bout de 300 ou 400 ans.
C'est-à-dire, si on fait rien, en fait, il y a la forêt qui vient partout et c'est vraiment l'homme qui a façonné la nature et qui a fait réduire la part de la forêt.
Oui, oui, l'homme a... Et encore, on l'oublie, mais en France, par exemple, la forêt, il y a 200 ans, c'était 15% de la surface, la surface du territoire. Aujourd'hui, on est à 25%. Donc, la forêt a énormément regagné... de la place dans nos paysages, et je pense qu'elle elle va continuer à en regagner.
Cette terre nous est sacrée. cette eau scintillante qui coule dans les ruisseaux et les rivières n'est pas seulement de l'eau, mais le sang de nos ancêtres. Nous vous vantons de la terre, vous devez vous rappeler qu'elle est sacrée, et que chaque reflet spectral dans l'eau claire des lacs parle d'événements et de souvenirs de la vie de mon peuple. Le murmure de l'eau est la voix du Père, de mon Père. Les rivières sont nos frères, elles étanchent notre soif. Les rivières portent nos canoës et nourrissent nos enfants. Si nous vous vendons notre terre, vous devez désormais vous rappeler et l'enseigner à vos enfants. Les rivières sont nos frères et les vôtres. Et vous devez désormais montrer pour les rivières la tendresse que vous montreriez pour un frère. Nous savons que l'homme blanc ne comprend pas nos mœurs. Une parcelle de terre ressemble pour lui à la suivante, car c'est un étranger qui arrive dans la nuit et prend à la terre ce dont il a besoin. La terre n'est pas son frère, mais son ennemi, et lorsqu'il l'a conquise, il va plus loin. Il abandonne la tombe de ses aïeux, et cela ne le tracasse pas. Il enlève la terre à ses enfants, et cela ne le tracasse pas.
Alors tout à l'heure là on entendait la musique des plantes. Alors tu as un appareil là quand on est arrivé, tu l'as branché, une sorte d'électrode j'imagine, sur une feuille de ce magnifique chêne là qui sur lequel on est tous les deux adossés, voilà, on a mis nos dos voilà, pour se connecter à lui. La sylvothérapie, donc c'est une approche sensible dans la nature quand on est immergé dans la forêt, des plantes, des arbres, et cette musique des plantes, qu'est-ce que c'est alors ? Ça nous permet d'être mieux en contact avec ces arbres ?
Cette musique, cet appareil qui a été développé par des Italiens, et qui est distribué en France par une personne qui se nomme Jean Toby, qui se dit musiniériste, donc à la fois musicien et pépiniériste, et qui travaille autour de cette musique des plantes. Et cet appareil permet en fin de compte de brancher une électrode sur le système racinaire de la plante et une électrode sur la partie aérienne. Et il existe une différence de potentiel entre ces deux parties de la plante. Et ce différence de potentiel est transformé en impulsion électrique et donc en musique. Et ça fait et c'est assez surprenant d'écouter cette musique, sachant qu'en plus après derrière, cette musique elle est évolutive. Donc c'est assez surprenant. Je ne sais pas si tu as vu, mais elle a commencé. Il y a quelques impulsions qui arrivent au démarrage. Et puis au fur et à mesure, elle va ça va évoluer. Donc et ça va s'enrichir. Donc là, il y a des choses qui se passent. On a du mal à savoir aujourd'hui ce que cela signifie. Mais il y a des choses assez surprenantes. Est-ce que l'arbre répond à sa propre musique? Est-ce que le fait qu'on soit présent au pied de cet arbre, il y a des interférences qui se mettent en place et il y a une sorte de langage qui se met en route entre l'arbre et nous-mêmes, sachant qu'il ne faut pas oublier que nos cellules et les cellules de l'arbre ne sont pas si éloignées que ça. Donc on a les mêmes types de cellules et donc nous sommes cousins et peut-être je pense qu'il y a des choses qui se passent entre l'arbre et nous.
Alors, tu fais des méditations aussi pour essayer de rentrer encore plus en contact avec les plantes ?
C'est vrai que depuis que j'ai découvert cet appareil, j'ai fait aussi pas mal de recherches au niveau de... sur la sylvothérapie. Il y a toute une partie de recherche autour de nos savoirs celtiques où l'arbre avait un rôle très important, que ce soit au fur et à mesure des saisons ou dans nos rapports à la vie en général. Et chaque arbre a une énergie, les Celtes donnent à chaque arbre une énergie particulière. Donc je me suis amusé à essayer d'écouter cette musique et puis de ressentir un peu ce que l'arbre pourrait avoir à dire. Et donc ça a sorti quelques textes que j'ai ensuite enregistré avec la musique de l'arbre. Et voilà, je suis un peu au début de ces recherches. C'est un peu mon travail d'expérimentation. Et derrière, c'est vrai que j'aime bien accompagner un peu les gens, les mettre au pied des arbres, brancher cette musique, et puis les laisser un peu, les amener un peu en voyage par une petite méditation guidée, essayer de se reconnecter un peu à nos sources et puis profiter du moment présent et puis rêver un peu, retrouver un peu notre âme d'enfant. Ce que j'aime bien, c'est juste pour revenir, ce que je trouve vraiment intéressant sur la musique des plantes, c'est que si, et je le fais expérimenter aux personnes que j'emmène pendant mes balades, c'est... On se met au pied d'un arbre, on connecte l'arbre, et puis après, on prend le connecteur racine dans nos mains. Le connecteur de racine dans nos mains. Et il va y avoir une musique. Et cette musique, elle est à la fois... Elle est c'est notre énergie qui se mêle à l'énergie de l'arbre. Ce qui veut dire que, voilà, on est... Tout est vibration, et notre vibration... se mêle à la vibration de l'arbre. Et d'un seul coup, ça fait prendre conscience aux personnes de notre lien aux arbres et de notre lien au sol et à la terre. Et c'est assez surprenant, et même après derrière, si on connecte au niveau du sol le connecteur racine et qu'on prend le petit connecteur feuille et qu'on va connecter d'autres végétaux tout autour de la zone, chacun va faire une musique, mais on peut partir à 10 ou 15 mètres et connecter un arbre, et il va y avoir une musique qui va apparaître. Et ce qui et d'un seul coup, on se rend compte que dans le sol, sous le sol, il se passe des choses encore plus importantes que ce qu'on imagine. Et voilà, c'est vraiment pour moi, le sol est la partie immergée de l'iceberg dans la vie de la forêt, quoi. C'est vraiment un internet très très important, avec énormément de micro-organismes. C'est pour ça que quand on est en forêt, je pense que l'urban forêt, on a une connexion très importante, que ce soit au niveau de notre connexion par nos pieds à toute cette vie qu'il y a dans le sol, et puis par la partie aérienne de la connexion à l'énergie des arbres qui nous entourent et qui sont en échange permanent avec leur milieu. Avant toute chose, je trouve que ce qui est intéressant, c'est de couper le mental, c'est-à-dire de ne plus être dans le mental, mais d'essayer d'être dans le ressenti. Donc pour moi, aujourd'hui, avant d'entrer dans une démarche plus spirituelle, c'est vraiment sentir, ressentir, s'arrêter, ralentir, écouter, et puis mettre l'ensemble de ses sens en éveil, et après d'ouvrir un peu le champ des possibles. Donc pour moi, c'est vraiment déjà une démarche d'être à l'écoute, et puis s'il se passe des choses qui sont de l'ordre du spirituel, ben voilà. Mais après, c'est chacun son histoire, c'est chacun son moment de vie, et puis voilà, je trouve qu'après c'est intéressant de se dire, et si on pouvait en rentrer en contact avec un arbre, et si on pouvait lui poser une question, et si il pouvait nous répondre. Mais je pense qu'on a cette capacité à rentrer à nouveau en échange avec les milieux qui nous entourent, et que ces échanges-là ont la capacité et peuvent être riches, peuvent nous enrichir énormément. Et c'est vrai que tu parlais de bains de forêt, mais aujourd'hui, bon, c'est vrai que les études qui sont faites montrent que bains de forêt, t'as la tension qui baisse, la tension artérielle baisse, ça fait énormément de bien aux gens. Dans les centres hospitaliers, quand t'as une chambre qui a la vue sur un espace vert et une chambre qui a vue sur un mur blanc, la personne qui est en convalescence, elle va sortir un ou deux jours avant celle qui est devant un espace vert, elle va mettre moins de temps à se remettre. Donc il est prouvé aujourd'hui scientifiquement que l'échange avec le végétal nous fait du bien, et fait du bien à nos sociétés. Des quartiers où il y a des espaces verts, il y a moins de violence. Et voilà, donc il y a vraiment de nouveaux rapports à créer avec le végétal.
C'était l'ours et la carotte, écoutable sur Internet. Oui,
after remembering.